La semaine passée, on a parlé d'un sujet particulier. On a parlé de la Pâque, on a commencé à parler de la Pâque, puis en parlant de la Pâque, ben, j'ai commencé à expliquer aussi qu'est-ce qui s'était produit lorsque la Pâque était instituée. Que le peuple d'Israël était en Égypte, puis était esclave en Égypte, puis était traité durement par les Égyptiens, puis que là, ils priaient pour avoir un libérateur pour pouvoir sortir de là. Puis ils ont été exaucés, Dieu leur a envoyé Moïse, puis il a équipé Moïse d'une onction, la puissance de Dieu avec lui, puis là, il s'est passé des signes, des prodiges, des miracles, mais ils n'ont pas eu leur délivrance, excepté à la 10e plaie d'Égypte, quand Dieu a frappé les Égyptiens, à la 10e plaie, c'est là que la délivrance a eu lieu, que le peuple a pu sortir d'Égypte. Puis à la hâte, ils se sont dépêchés à sortir, puis les Égyptiens leur ont même fourni tout ce qu'ils avaient besoin, puis envoyés sortir, c'est le temps de sortir. La délivrance a été rapide. En une seule nuit, il s'est passé un événement spécial pour que ça arrive. C'est ça qui est pas le symbolique, mais le sens profond du mot « Pâque », qui veut dire « passer par-dessus ». Dieu, à la 10e plaie d'Égypte, c'est une plaie qui frappait les premiers-nés de chaque famille. Tous ceux que le sang de l'agneau, les Juifs devaient tous prendre un agneau, puis le manger dans toute la nuit, en faire un genre de sacrifice à Dieu, puis de servir du sang pour beurrer le cadrage de porte, du sang de l'agneau, puis l'ange de Dieu... Dieu lui-même envoyait un jugement sur la terre, sur toutes les familles en Égypte qui n'avaient pas le sang. Le premier-né de chaque famille mourait, autant des humains qu'autant des animaux. C'était ça la 10e plaie d'Égypte. Puis tout s'est passé au moment où ils ont célébré la Pâque, puis que le jugement de Dieu a tombé sur ceux qui n'avaient pas le sang. Puis là, il y a eu des morts partout. Dans tout l'état de l'Égypte, il y a eu des morts partout. Dans toutes les familles, même le pharaon, il y a eu des morts dans sa famille. Puis là, le peuple d'Israël, Dieu a dit, vous sortez. Là, c'était la délivrance du peuple juif. Fait que le mot Pâque, comme j'ai commencé à vous l'expliquer, ça veut dire passer par-dessus. Passover en anglais. Fait que tous ceux qui avaient du sang sur le cadrage de porte, ils pouvaient sortir dans la victoire, parce que c'est Dieu qui lui donnait la victoire de sortir. Dieu a fait quelque chose pour que le peuple sorte. Il n'a pas eu besoin de la main d'une autre armée qui aille en Égypte, combattre l'Égypte pour enlever les esclaves de l'Égypte, qui étaient le peuple d'Israël. Dieu ne s'est pas servi d'aucune armée. Il ne s'est pas servi de rien de moyen humain, sauf que démontrer sa puissance en opérant des signes, des prodiges pendant les 10 plaies d'Égypte. Puis quand c'était la 10e plaie, la Pâque, c'était le jour de la délivrance du peuple d'Israël. La Pâque, cette journée-là, est devenue une fête fêtée par le peuple juif. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte à Pâques et en même temps a été préservé du jugement de Dieu, de l'ange exterminateur. Fait que c'était toute une délivrance cette journée-là. Ça est devenu une fête à perpétuité. C'est comme une fête nationale pour les Juifs, la fête de Pâques. C'est le vrai sens de la fête de Pâques. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est un peu une continuité de ce message-là. Pour comprendre que la Pâque, c'est grâce à Dieu, bien entendu, mais Dieu a pourvu à un moyen spécial pour accorder la délivrance, puis tout s'est joué autour du sang de l'agneau qui a été sacrifié dans cette nuit-là. L'agneau était sacrifié, il était mis à mort, il a été bouffé, il a été mangé, son corps a été rompu pour tous. Et son sang était versé, le sang a été mis sur les cadrages, ça allait opérer une grande délivrance. Puis, comme qu'on a vu la semaine passée aussi, Dieu se sert des passages de l'Ancien Testament pour nous annoncer un message prophétique pour le futur. Un message prophétique pour annoncer des choses à venir sur la terre et aussi nous montrer qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes. à travers de ces images-là, de ce qui s'est passé cette journée-là. Il y a des conclusions à tirer qui s'appliquent encore aujourd'hui pour nous. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Le pouvoir du sang de l'agneau de Dieu ». De Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. On va voir la grandeur du salut que Dieu a accordé à tout l'ensemble de l'humanité à travers du sang de son Fils Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. On va voir le point central du message de la Nouvelle Alliance. Parce qu'on est sous la nouvelle alliance. Dieu a fait des alliances avec les hommes. La première alliance, il l'avait faite avec le peuple juif. Il avait fait une alliance, puis il y avait dans son alliance, il y avait des prescriptions, il y avait des lois, des règlements, des promesses. Puis il avait fait cette alliance-là avec le peuple juif. Ça, c'était la première alliance. Puis maintenant, nous, depuis que Jésus est venu, voilà 2000 ans, il y a une nouvelle alliance qui est commencée. C'est la nouvelle alliance par le sang de Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est dans cette nouvelle alliance-là qui nous permet d'obtenir le salut éternel. Le salut qui est beaucoup plus que d'être juste délivré de nos ennemis puis de ceux qui nous oppriment sur la terre. C'est une délivrance qui nous amène à posséder beaucoup plus que juste un terrain, une terre promise terrestre. Notre alliance, notre nouvelle alliance par le sang de Jésus, ça nous permet d'entrer dans un salut éternel, d'être sauvés pour l'éternité, d'avoir une vie sans fin par Dieu. Merci Seigneur. Ça nous a rendus capables d'obtenir ces choses-là. La semaine passée, je vous ai expliqué un peu ce qui s'est passé avec le peuple juif pour qu'on comprenne le parallèle que Dieu s'est servi dans le temps de cette fête-là, quand il l'a appelé la Pâque. Ça avait un symbole prophétique pour annoncer le futur. Puis il faut comprendre qu'on est rentré dans ce futur-là depuis Jésus, que le futur est commencé, que l'accomplissement de cette prophétie-là de Pâques est commencé, voilà, 2000 ans, puis 2000 ans plus tard, on en profite encore. On profite encore des bienfaits de ce sacrifice-là. La loi de Moïse, c'est un nombre des choses à venir. C'était comme l'ombrage des vraies affaires. Ce qui s'est passé avec le peuple juif, c'était l'ombrage des vraies affaires. Puis, comme par... Dieu a choisi de nous montrer l'ombrage avant de nous montrer les vraies affaires. D'habitude, tu vois une bâtisse, puis tu t'aperçois de son ombrage. Mais là, sans comprendre c'est quoi la bâtisse, Dieu nous a montré d'avance l'ombrage. Puis là, dans l'ombrage, ça nous permettait un peu de discerner la grandeur de ce ministère-là que Jésus est venu accomplir en versant son sang. Oui. Dans Hébreux 9, 22, ça nous dit, dans la loi de Moïse, que tout devait être purifié par le sang. Le sang, là, de la Pâque, c'était le commencement de l'effusion du sang pour nous faire comprendre qu'il fallait qu'il y ait une effusion de sang pour qu'on puisse être pardonné. Puis après ça, dans la loi de Moïse, Dieu il a institué de faire des sacrifices d'animaux pour offrir à Dieu des sacrifices, soit pour remercier Dieu de ce qu'il avait fait, soit pour demander le pardon des péchés, soit pour bénir Dieu par toute l'abondance qu'il nous accorde, bien, il offrait des sacrifices à Dieu. Il offrait les animaux en sacrifice, il versait le sang, puis il allait apporter le sang sur l'autel à Dieu dans le but de recevoir le pardon. Toute la loi de l'Ancien Testament est basée sur des sacrifices que les gens devaient faire pour obtenir le pardon. Puis ça nous dit dans Hébreux 9, 22 et 23, « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Tout ce qui était dans la loi de Moïse devenait purifié par le sang. » Puis ça nous dit aussi, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » La loi était là pour nous montrer un ombrage de quelque chose d'encore beaucoup plus grand qui s'en venait, puis c'est arrivé 1500 ans plus tard, à la venue de Jésus, mais les gens étaient déjà préparés à comprendre que ça prenait du sang pour purifier. Le verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, on a dit que la loi, c'est une image des choses à venir et une image des choses célestes. Fait que la loi, c'est une image, c'est à l'ombrage des choses du ciel. On voit dans ce passage-là, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, par le sang, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Si, je vais vous expliquer ça, qu'est-ce que Hébreu essaie de nous dire, c'est que dans ce temps-là, ça, l'ombrage des choses à venir, ça nous démontrait qu'il fallait qu'il y ait une effusion de sang pour avoir du pardon. Mais ça, c'est à l'ombrage des choses célestes, pour comprendre que même dans les lieux célestes, ça prenait à l'effusion du sang pour être pardonné, sauf que ça prenait un sang plus excellent que celle qui avait été offerte par des sacrifices d'animaux. Ça prenait le sang de quelque chose de plus excellent, du Créateur lui-même, qui a décidé de venir en forme humaine pour verser son sang. Hey, ça, c'est quelque chose. Pour nous montrer là-dedans que le sacrifice n'a pas des hommes ni des animaux, le sacrifice n'a de Dieu. Jésus y est venu envoyé par le Père. Jésus est venu par lui-même parce qu'il était Dieu lui-ci, mais il est envoyé par le Père dans le but de s'offrir en sacrifice. Il savait avant même de venir sur la terre qu'il devait aller payer puis mourir sur la croix puis verser son sang. Puis il a fallu qu'il apprenne aux gens qui étaient autour de lui à comprendre qui ce qui était lui en tant que ce Messie qui venait pour nous sauver. Puis Jean-Baptiste, il a été envoyé avant Jésus pour présenter Jésus au monde, pour présenter Jésus aux autres. Il fallait que Jean-Baptiste soit convaincu que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait que Jean-Baptiste soit convaincu, puis que Jean-Baptiste, dans son zèle, il le prêchait à tout le monde de cette époque-là, qui était dans ce territoire-là. Ça nous le dit dans Jean 1, 29, quand Jean-Baptiste a réalisé que Jésus était le Messie, qui était le oint, qui était celui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu tous les gens. Mais là, il a vu venir Jésus à lui, puis il a dit, dans Jean 1, 29, il vit Jésus venant à lui, puis il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est une révélation qui était nécessaire, parce que tout le monde dans ce temps-là offrait encore des sacrifices d'animaux dans le temple. Tout le monde se fiait aux sacrifices d'animaux, prenait un agneau, puis il l'offrait en sacrifice, versait le sang pour être pardonné de leurs péchés. C'était naturel pour tout le monde dans leur pensée d'acheter un agneau et d'offrir en sacrifice. Puis là, Jean-Baptiste est en train de commencer à dire autre chose. Il a dit, « Maintenant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus a commencé à être présenté au monde comme étant l'agneau qui enlèverait les péchés. Dans l'histoire, comme j'ai dit tantôt, ce qui s'est passé avec le peuple juif, là, qu'à la Pâque, il y avait eu la sortie du peuple juif de l'Égypte, puis que ça nous amenait à comprendre une vérité des choses à venir, un nombre des choses à venir, qui viendra un agneau de Dieu, un Messie de Dieu, un oint de Dieu, qui sera destiné à venir verser son sang pour apaiser la colère de Dieu pour ceux qui croiraient en lui. C'est fort qu'est-ce que je vous dis là. Il fallait que la colère de Dieu soit apaisée. Et ça prenait le sacrifice d'un animal dans l'Ancien Testament pour apaiser la colère de Dieu sur nos péchés. Puis là, c'était pas suffisant pour les choses célestes. Ça prenait un sacrifice encore plus parfait. C'est pour ça que Jésus est venu pour présenter le sien, son sang, à Dieu le Père, pour apaiser la colère de Dieu sur tous ceux qui voudraient croire en son sacrifice. Ça, on voit ça dans Romains 3, le verset 25. En parlant de Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, être une victime propitiatoire. Wow, c'est quoi ce mot-là, une victime propitiatoire? Ça, c'est une pratique dans l'Ancien Testament que ça s'appelait, qu'il y avait un animal qui était qui se faisait appeler la victime propitiatoire. Puis le mot qui est là, le mot grec dans le Nouveau Testament, c'est relatif à un apaisement ou une expiation, les moyens de l'apaisement, ce qui rend propice. C'est utilisé pour l'Arche de l'Alliance, quand il offrait les sacrifices, il servait pour asperger du sang de la victime expiatoire, le jour de l'expiation annuelle. Une fois par année, le peuple d'Israël offrait un sacrifice, puis le souverain sacrificateur rentrait dans le temple de Dieu, dans le lieu très saint, puis allait offrir le sang de cet animal-là qu'il venait d'offrir en sacrifice pour apaiser la colère de Dieu sur le peuple tout entier. Ça faisait partie des sacrifices que les Juifs devaient pratiquer une fois par année, sans compter les autres fois qu'à chaque fois qu'il commettait un péché, il devait aller aussi offrir ce sacrifice-là. Ça signifie que la vie du peuple, perdue par ses péchés, est offerte à Dieu par le sang de la victime, ce qui apaisait Dieu et les péchés étaient expiés par le sacrifice. Autrement dit, cet animal-là, qui était innocent, qui n'avait rien fait de mal, qui était pur, sans défaut, sans tâche, c'était une brebis parfaite. Fallait pas qu'elle soit infirme ou malade, là. Fallait offrir un animal en pleine santé. Lui payait pour les péchés de tout le monde. Il payait de sa vie. Il se faisait mettre à mort, son sang était versé, puis il expiait là, puis il ramassait le sang, puis là, il donnait ça à Dieu. Puis là, il disait à Dieu, « Sois apaisé envers nous. » Il y a eu quelqu'un qui venait de payer là pour les péchés, puis c'était l'agneau qui venait de mourir. Puis le sang t'a offert pour apaiser la colère de Dieu, parce que l'ensemble du peuple était dans le péché. La Bible a dit tous sont pécheurs devant Dieu. Tous avaient besoin d'offrir des sacrifices à Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Puis ça, ils appellent ça une victime propitiatoire. C'est l'agneau qui est offert une fois par année en sacrifice pour expier les péchés du peuple. C'est un sacrifice expiatoire, c'est une victime expiatoire. C'est offert, cette victime-là, en sacrifice pour expier les péchés. Expier, ça veut dire comme si sont effacés les péchés, sont payés, la dette est réglée. Ça prenait quelqu'un qui paye à quelque part, puis c'était l'agneau qui payait pour cela, qui subissait la mort pour cela. Mais tout ça, ça avait un message pour annoncer tout ce que Jésus était pour faire 1500 ans plus tard. Jésus s'est présenté lui-même, regardez bien ça, Jésus s'est présenté lui-même dans le ciel avec son sang, afin de comparaître pour nous. Autant qu'une fois par année, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, parce que le lieu saint, il y avait la tente, puis dans la tente, il y avait une partie qui était le lieu saint, le monde rentrait, les sacrificateurs rentraient à l'année longue dans le lieu saint pour aller porter le sang, puis aller prier Dieu, etc. Mais dans le lieu très saint, il y avait un gros voile qui séparait le lieu saint avec le très saint, puis le souverain sacrificateur, le chef des sacrificateurs, rentrait une fois par année dans le lieu très saint pour aller offrir ce sacrifice-là pour tout le peuple. Puis là, ça nous dit que ça, c'est à l'ombre des choses à venir. Jésus, lui, il a rentré dans le ciel avec son propre sang pour aller intercéder pour nous. On voit ça dans Hébreux 9, 24 jusqu'à 26. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Jésus est rentré quand il est mort, il n'a pas été gardé par la mort. Il est ressuscité, il s'est remontré à ses disciples. Puis après ça, il a monté, il dit, attends, je suis pas encore monté, mais je m'en vais. Là, il est apparu pendant 40 jours, puis après ça, il a monté à la vue de ses disciples, il a monté, puis il a rejoint son Père. Puis ça nous dit dans ce texte-là, il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous. Il est allé comparaître. C'est la même chose que quand tu passes en cours. Tu passes en cours, puis il y a quelqu'un qui parle pour toi, c'est ton avocat. Il comparaît devant le juge, puis il parle en ton nom, puis il est là pour te défendre. Mais Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il est rentré dans le lieu très saint avec son sang, puis il est allé là pour comparaître pour nous. Il est allé plaider notre cause. On était tous des pécheurs, on méritait tous l'étang de feu à cause de nos péchés. Ça prenait un seul péché, puis on pouvait plus rentrer, puis on a des tonnes et des tonnes des péchés. On est tous des séparés de Dieu, point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien. Ça? Fait que là, on pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Il fallait que Dieu lui-même vienne, meure sa croix, verse son sang, en sacrifice, puis il a repris son sang, il est allé le présenter à Dieu son Père, puis le présenter pour comparaître, pour plaider pour nous, qui sommes ceux qui croient en lui. Il est allé pour comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est une chose qu'on doit savoir parce que Dieu est en colère après nous. Quand on était dans le péché, on va le voir un petit peu plus tard, il est en colère sur l'ensemble de l'humanité. Puis pour être apaisé de la colère, ça prenait un sacrifice, du sang qui est apporté devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est le souverain sacrificateur qui allait une fois par année. Maintenant, c'est Jésus qui a été dans le ciel, présenter son sang pour apaiser la colère de Dieu pour chacun de nous. Ça nous dit, et c'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Jésus est venu une seule fois, puis son sang était suffisant pour pouvoir pardonner les péchés de quiconque croit. Gloire à Dieu. Puis une autre affaire qui est extraordinaire, à cause qu'il est ressuscité, il peut encore intervenir. La Bible nous dit que depuis sa résurrection, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Tous ceux qui s'approchent de Jésus peuvent être pardonnés et sauvés parfaitement. Dans Hébreux 7, 25, ça nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Fait que Jésus, en étant toujours vivant, tu t'approches de Dieu par Jésus, puis il dit, il va commencer à intercéder pour toi, puis il peut te sauver parfaitement. Passe par Jésus, puis le salut est accordé. Gloire à Dieu, merci Seigneur de cette opportunité extraordinaire de pouvoir être représenté dans les lieux célestes, dans le ciel. Il y a quelqu'un qui parle pour moi. Il y a quelqu'un qui parle pour chacun de vous dans le ciel, puis c'est Jésus. Il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il parle de nous à Dieu son Père. Puis quand on fait des fautes, on demande pardon, le sang de Jésus continue à nous purifier. Nous sommes purifiés par son sang. Tout devait être purifié par du sang. Puis le sang de l'ancienne alliance était toujours à être répété, tandis que Jésus est paru qu'une seule fois pour régler l'histoire du péché. Merci Seigneur. Amen. Quelques-uns des avantages pour ceux qui croient en son sang versé, le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes délivrés du péché, puis il a fait de nous un royaume. À cause de son sang qui était versé. S'il n'aurait pas versé son sang, ça aurait été impossible. Dans Apocalypse 1, le verset 5 et 6, ça nous dit, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, le peuple de Dieu est délivré de ses péchés. Quand tu viens à Jésus, tu peux en avoir une montagne de péchés. Puis quand tu viens à Jésus, il délivre de tes péchés et de ses conséquences. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça nous donne de faire partie de la famille de Dieu, du peuple de Dieu. À cause de son sang, on est pardonné, puis il a fait de nous le peuple saint, le peuple de Dieu. On est les représentants de Dieu sur la terre. On est des enfants de Dieu. On est des sacrificateurs pour Dieu. On est le peuple de Dieu. Nous sommes les saints du royaume qui vont vivre éternellement. À cause que Jésus a versé son sang, on a accès à toutes les promesses de Dieu pour la vie éternelle. C'est extraordinaire. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes et sauvé de la colère de Dieu. Ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais j'en parle encore un petit peu. Dans Romains 5, 9. Comme j'ai dit tantôt, le souverain sacrificateur, il allait offrir une fois par année le sang de la victime propitiatoire dans le but d'apaiser la colère de Dieu sur le peuple. Jésus est allé devant son Père présenter son sang, qui est lui-même la victime expiatoire, pour nous apaiser, pas juste l'apaiser, pour nous délivrer de la colère à venir. Dans Romains 5, 9, ça dit « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Il faut comprendre que Dieu, même si Dieu est amour, même si Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, même si Dieu est amour, Dieu est juste. Puis il ne laissera pas le méchant impuni. Il ne laissera pas le coupable sans conséquence. Autant que pour nous délivrer de nos conséquences, de nos péchés, il a fallu que quelqu'un paye la dette à notre place. Mais autant que ceux qui n'ont pas voulu recevoir le pardon, Dieu est encore en colère contre eux. Puis il a annoncé dans sa parole que sa colère va être déversée sur la terre et, en plus, c'est le jugement éternel du grand trône blanc, que quiconque qui ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie va être jeté dans l'étang de feu. Dieu ne fait pas de passe-droit. Il ne fait pas d'injustice. Il laisse pas le péché impuni. Ça prend quelqu'un qui est puni pour les désobéissances. Heureusement qu'il a envoyé quelqu'un payer à notre place pour qu'on puisse être libéré de la colère à venir. Sinon, on aurait été châtié comme le reste du monde qui vont l'être. Lorsque Jésus-Christ reviendra, ça nous dit, il vient pour prendre ce qui lui appartient, puis il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Puis ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ça va être horrible, le cri et les pleurs et les larmes et les grincements de dents qui vont se manifester lorsque Jésus-Christ va les rejeter. Lorsque Jésus va revenir, il va avoir toutes les nations devant lui, puis il va séparer les brebis d'avec les boucs, puis il va prendre ses brebis, puis il va dire, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. » Puis les boucs, ceux qui n'étaient pas à lui, il va dire, « Retirez-vous de moi, maudits, puis allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ça va être terrible, le rejet de subir la colère de Dieu puis d'être rejeté de sa présence pour l'éternité. Dieu est en colère, comme je disais tantôt, puis à cause de Jésus, dans Romains 5:9, on va vous relire le verset, « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par Jésus de la colère. » On est justifié par son sang. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes déclarés des justes à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus, vous êtes... Dieu vous regarde, puis il voit le sang de Jésus sur vous, puis il dit ça, c'est un juste. C'est quelqu'un qui m'appartient. Il est libéré de la colère. Mais à cause que, c'est ce qu'il nous dit, qu'on est justifié par son sang, on est déclaré juste, on n'aura pas à subir la colère de Dieu. Il dit, celui qui croit en moi, ça nous dit, il est passé de la mort à la vie. Puis il dit qu'il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie, à cause qu'on croit en Jésus.
Amen.
Un autre passage dans Jean 3, 36, ça nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous, Dieu, même s'il est amour, il est aussi en colère contre ceux qui se repentent pas. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit. Puis à cause du sang de Jésus, on est sauvé de la colère. On passera pas devant le jugement, parce que on est déclaré des justes. Pas parce qu'on était meilleur, parce qu'on a eu mis notre foi dans le Sauveur du monde. Puis grâce à son sang, nous avons maintenant une libre, je vais le lire dans un prochain verset, une libre entrée dans son sanctuaire. Justement, c'est le verset, il fallait que je lise. Par le sang de Jésus-Christ, nous donne une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Ça nous le dit dans Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée, quand on dit c'est entrée libre, c'est gratis, c'est gratuit. Tu rentres comme tu veux. Si on fait une activité, on fait un film, puis c'est marqué entrée libre, tout le monde sont bienvenus, c'est gratuit. C'est pas parce que c'était cheap puis que ça vaut rien que c'est libre. Non, ça coûtait cher pour pouvoir que ça soit libre. Ça, c'est que la dette a été payée pour que ça soit libre. Jésus-Christ a payé de sa vie comme étant la victime qui a subi les souffrances puis qui a versé son sang dans le but de nous rendre l'entrée libre. C'est extraordinaire d'avoir l'entrée libre, mais ça a coûté cher. Ça a coûté la vie de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Ça veut dire qu'il a payé notre dette. C'est comme un prêt sur gage. Tu vas t'amener ton objet au prêt sur gage, tu as besoin d'argent. Tu amènes ta télévision, tu y laisses ta télévision, elle vaut 500$, tu lui dis « passe-moi 150 », il te prête 150 sur ta télévision. Ben, en réalité, t'as tatoué la télévision, mais elle t'appartient pas vraiment, t'appartient plus vraiment tant que t'as pas réglé la dette que t'as dessus. La journée que ta dette sera payée, tu pourras récupérer ta télévision. T'as mis ta télévision là, et là, tant que la dette est pas payée. Saviez-vous qu'à cause de nos péchés, on avait tous une dette? On avait une dette à Dieu. Puis on appartenait à qui à cause de nos péchés? Au diable, la Bible nous dit. Le monde entier sous la puissance du malin, que ça nous dit. Ça veut dire l'ensemble de l'humanité se doit. Elle ne s'appartient plus. C'est le diable qui est le propriétaire. Quand on est nous au monde dans le péché puis qu'on a péché nous-mêmes, on était déjà sous l'emprise du diable, sur la possession du diable, sur le contrôle du diable. Il nous menait comme qu'il voulait. Puis il fallait que quelqu'un paye ce que ça coûte comme dette pour pouvoir nous récupérer. C'est Dieu qui était le propriétaire de tout. Mais en se donnant au diable, en appartenant au diable, fallait que la dette soit payée pour qu'on puisse être récupéré par Dieu. Fallait que quelqu'un nous rachète. Le rachat, c'est la rédemption. Un rédempteur, c'est un rachat qui fait. Il paye notre dette. Fait que ça nous dit que, en Éphésiens 1:7, en lui, en Jésus, nous avons la rédemption. En Jésus, on a un rédempteur. Un rédempteur, c'est quelqu'un qui paye la dette. Un rédempteur, c'est quelqu'un qui a payé pour qu'on puisse être rendu libre. Il nous a rachetés. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption. Ça, c'est dans Éphésiens 1:7. On a la rédemption par son sang. Il fallait que le sang du Créateur soit versé pour qu'on puisse être racheté. Le prix que ça a coûté, c'était le sang de Jésus pour nous racheter. On coûtait-tu assez cher? Notre dette était tellement immense que ça prenait le sang du Créateur pour le payer à notre place, notre dette. Puis pour nous, c'était impossible de payer cette dette-là. Il fallait que le Créateur vienne et qu'il paye de son sang en sacrifice pour apaiser, pour régler la dette de nos péchés. Fait que en Jésus, nous avons la rédemption. Nous avons le rachat. Le rédempteur, c'est celui qui rachète, qui paye la dette. C'est Jésus, par son sang. On a eu la rédemption, puis on a eu la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Comme je vous disais tantôt, la rédemption, c'est une libération qui est effectuée suite au paiement d'une rançon. C'est une rédemption, c'est une délivrance. C'est qu'il y a quelqu'un qui a payé la rançon que ça coûtait, le montant à être obligé de rembourser pour qu'on puisse tomber libre. Puis c'est Jésus qui l'a payé, notre dette. Est-ce que vous vous sentiez en dette? Avez-vous déjà médité là-dessus? Est-ce que vous vous sentiez en dette à cause de vos péchés? Que vous aviez une dette, puis que cette dette-là, c'est impossible pour vous de la payer, puis que ça prenait un sauveur pour vous débarrasser de cette dette-là. Avant d'être chrétien, je le savais que j'étais pécheur, puis je le savais que je m'en allais dans les temps de feu, puis je voulais pas y aller. Je voulais trouver le moyen pour m'en sortir. Mais pourquoi que j'ai commencé à avoir ce réveil-là dans ma pensée? C'est parce que j'ai commencé à lire la Bible. Parce que si tu t'apprends pas à connaître ce que Dieu a dit sur notre condition, tu t'en soucies même pas, tu y penses même pas qu'il y a une dette qui est là. Tu sens que ça va pas bien, mais tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver après, tu sais pas quelle est la grandeur de ta dette, de tes péchés, tu sais pas que ça t'empêche d'entrer dans la vie éternelle, tu sais pas que tu vas être jeté dans les temps de feu. Mais quand tu commences à lire la Bible, tu t'aperçois que Dieu y est en colère, puis que Dieu va établir son jugement, que tu y crois, que tu y crois pas, il va le faire. Fait qu'on a plus avantage de croire ce que Dieu a déclaré dans sa parole, parce que ça va s'accomplir tel que ça a été annoncé. Puis tous ceux qui passent par Jésus, c'est le seul moyen, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. C'est Jésus-Christ. Si on passe par Jésus, son sang qui était versé, voilà 2000 ans, nous rachète, paye notre dette. On est rendu libéré comme un esclave qui appartient à quelqu'un. Fallait que la rançon soit payée pour tomber libre. On est devenus des libres du diable, des libres du péché. Puis un jour, si Dieu permet, on regardera toutes les libertés que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ. Mais on a été rachetés, il a payé notre dette, puis il nous a donné aussi la rémission des péchés. Il n'a pas juste payé la dette, il nous a remis notre dette. La rémission, c'est libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement, c'est oublier, pardonner. Rémission des peines, c'est une remise, c'est un pardon. Ça veut dire, Jésus a payé ce que ça coûtait pour qu'on soit, on tombe libre, mais là, automatiquement, on tombe libre du diable, mais on encourt une dette face à Dieu. Puis là, il a accepté de nous remettre notre dette. Ça fait penser un peu à la parabole de celui qui avait, il devait beaucoup d'argent, son maître lui a remis sa dette. Tu pourras jamais me payer, mais il a remis sa dette. Mais Jésus, on n'aura jamais pu y remettre ça, le prix que ça a coûté. On se doit au Seigneur. En réalité, il est deux fois propriétaire de nous. Une fois parce qu'il est le créateur, c'est lui qui est le propriétaire de tout, en étant le créateur, il est le propriétaire. Puis en nous ayant racheté, en ayant payé ce que ça coûtait pour nous rendre libres de toutes les influences, de toutes les conséquences de nos péchés et du diable, mais ça a coûté quelque chose, ça qu'il nous a racheté, donc on lui appartient doublement. Puis là, s'il décide de... On est quand même ses esclaves ou ses serviteurs, ou il nous appelle par amour ses enfants. On mérite rien de cela. S'il le fait, c'est parce qu'il nous l'accorde comme une bénédiction additionnelle, parce qu'on est loin de mériter d'être son enfant, tellement qu'on l'a offensé, puis on l'a insulté, on a désobéi, puis même encore 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, on pêche encore. Mais on mérite rien sur toute la ligne, mais il nous a remis notre dette, qu'on n'en parle plus. C'est ça qu'il dit, on n'en parle plus.
Merci Seigneur.
Alléluia, gloire à Dieu. Le rachat et la remise de la dette de nos péchés sont accessibles à tous. Pas juste, c'est là pour tout le monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Puis on le voit dans l'Apocalypse 5-9, qu'il y a une foule là dans le ciel qui ont été rachetés, puis il y en a de toute tribu, de tout peuple, de toute langue qui se tiennent devant le trône. Ça dit, ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre puis d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Jésus a été immolé. Il a été offert en sacrifice. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dieu l'a appelé à lui, il y a déjà du monde, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, qui se tiennent devant son trône, puis qui attendent, ils sont en attente de la résurrection, de la première résurrection, comme je l'ai enseigné la dernière fois. À son retour. Une autre belle bénédiction, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes rendus purs. Dans 1 Jean 1,7, on a été rendus purs, puis Jésus l'a dit à ses disciples, il dit, déjà vous êtes purs, par la parole que je vous ai annoncée. Mais il faut vous continuer à vous purifier à chaque jour, parce que on pêche encore en marchant dans cette vie. Puis le sang de Jésus nous a rendus purs, puis il veut continuer à nous purifier à chaque jour pour nous garder purs.
Amen. Amen.
Est-ce qu'on veut être gardé pur?
Ben oui.
Parce que c'est beau qu'il nous a pardonné quand on est à lui, mais n'oublions pas qu'il faut continuer à se garder pur. Faut que le sang de Jésus continue à nous purifier chaque jour. On commet encore des péchés. Y a-t-il quelqu'un ici qui en fait plus de péchés? Non. Donc, on a des pardons à demander à tous les jours à Dieu. Regardez bien le verset. Dans 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Là, je ne l'ai pas écrit, j'ai oublié de l'écrire, mais c'est l'autre verset. Là, c'est le verset 1 Jean 1,7. 1 Jean 1,9, 8 et 9, ça nous dit, si nous confessons nos péchés, c'était le 8 ou le 9?
Hein?
C'est le 9. Si nous confessons nos péchés, ça parle à des chrétiens. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voyez-vous, même si tu as passé par le sacrifice pour être rendu pur, il est à jour au moment où tu acceptes Jésus. Mais après ça, maintiens-toi à jour. Confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Demande dit pour qu'il te pardonne et te purifie. Il veut te rendre pur. Fait que maintenons-nous dans cette pureté. Dans pas long, aussitôt que Dieu va le permettre, on va étudier le passage du lavement des pieds que Jésus a fait avec ses disciples. Ça l'explique exactement ce que je suis en train de vous dire là. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que j'ai annoncée. Mais il faut que je vous lave les pieds afin que vous soyez entièrement purs. Parce que quand tu marches dans la vie, même si tu prends ta douche, tu sors dehors, mais eux autres étaient nu-pieds en ce temps-là, puis là, c'était pas des rues en asphalte, c'est des rues en poussière, de la terre, du sable. Tu sors dehors, tu t'es lavé, t'es pur, tu sors dehors, tu marches, tu te salis les pieds en marchant, donc il fallait que tu te relaves les pieds. Quand il rentrait d'une maison, il lavait les pieds des gens qui rentraient dans la maison. Pour se maintenir pur. Puis Jésus a fait un enseignement avec tout cela. On va regarder ça un jour, puis on va le faire ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses disciples? Mais pour revenir à nos... Le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes rendus purs et il nous maintient purs. Si nous confessons nos péchés, ça je vais l'écrire, le verset 9. Là, on arrive dans la conclusion du message. Savez-vous que le Saint-Esprit, présentement, travaille à convaincre les gens que le plus grand péché qu'une personne peut faire, c'est d'ignorer l'œuvre de Jésus-Christ. Le plus grand péché, c'est pas qu'ils font des péchés à chaque jour, c'est de pas vouloir se repentir puis de recevoir le sang de Jésus qui vient de les couvrir, puis qui les rend purs, puis qui les sauve de la colère à venir, puis tous les avantages qu'on a, qui nous donne une libre entrée dans le sanctuaire. C'est de refuser l'œuvre de Jésus, puis de refuser que le sang de Jésus les purifie. C'est ça qui est le plus grand péché. Ils croient pas en Jésus. Ils croient pas que Jésus est le Messie, puis que c'est son sacrifice qui peut nous sauver. Dans Jean 16, le verset 8 et 9, ça nous dit, « Et quand il sera venu le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. » En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit, son travail, c'est d'amener les gens à croire en Jésus. Ça, c'est le plus grand péché qui peut arriver quand quelqu'un refuse de croire en Jésus. Quand tu refuses, il n'y a plus rien pour toi pour t'en sortir. Il y avait juste le sang de Jésus. C'est le plus grand péché qu'une personne peut faire, c'est de passer à côté de l'œuvre. De croire au sacrifice de Jésus. Voyez-vous, ce qu'on a vu là présentement, c'est un parallèle entre la Pâque de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et la Pâque de la Nouvelle Alliance. À la Pâque de l'Ancien, un agneau est offert en sacrifice. Savez-vous qu'à la Pâque, la dernière Pâque de Jésus qui était sur la terre, c'était la journée de la Pâque, la même journée fêtée par les Juifs, c'était la fête de la Pâque, la fête qui était célébrée dans le but de se rappeler que l'agneau avait été offert en sacrifice et que le sang avait été mis ses cadrages. C'est cette même journée-là que Jésus a fait la dernière scène avec ses disciples, la Sainte Cène, et qui a expliqué que Jésus avait le sang de la Nouvelle Alliance et que Jésus était pour être mis à mort la journée de Pâques. La même journée que l'agneau était mis à mort pour que le peuple d'Israël sorte d'Égypte, la même journée de Pâques, Jésus a été mis à mort puis qu'il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné. Jésus était l'agneau de Dieu, puis il est mort la journée de Pâques, la même chose que ça s'est arrivé dans l'Ancien Testament. Cette journée-là était plus que juste une fête. C'était une journée prophétique, puis Dieu s'en est servi pour révéler le Messie. Dans Luc 22, le verset 12 à 14, Jésus a dit à ses disciples d'aller préparer, aller voir un tel, puis il dit, où est-ce qu'il y a le lieu pour que je prépare la Pâque? Puis là, ils ont trouvé le lieu, puis là, ils ont préparé la Pâque. Les Juifs devaient préparer la Pâque. Ils devaient acheter préalablement un agneau, puis ils devaient le garder pendant 7 jours, je pense. Puis là, après ça, la journée de Pâque, c'est là qu'ils préparaient. La journée de Pâque commençait le soir. C'est entre les deux soirs qu'ils devaient offrir le sacrifice. Fait que quand il commençait à faire noir, là, ils pouvaient offrir leurs agneaux en sacrifice juste, puis le lendemain ou la journée au complet, jusqu'à temps qu'arrive le soir du 14 de Nissan. Ça veut dire qu'il y avait, mettons, cette journée-là, ça leur arrivait un mercredi, fait que qui était la journée de Pâques. Le mardi soir, quand il commençait à faire noir, ils pouvaient déjà commencer à manger la Pâque toute la nuit, puis le lendemain, toute la journée, ils pouvaient manger leur agneau. Puis d'offrir le sang, etc., puis se rappeler tout ce que c'était, qui c'était le rappel de ce qui s'était passé dans la délivrance du peuple d'Israël. Jésus pratiquait cette fête-là avec ses disciples pour se rappeler, faisait partie encore du contexte de l'ancienne alliance, puisqu'il n'était pas encore mort. La nouvelle alliance n'a pas encore commencé. Jésus pratiquait la fête de la Pâque avec le sacrifice de l'agneau, la même chose comme il s'était recommandé par Moïse dans ses prescriptions. Puis là, il a demandé à ses disciples, Luc 22, 12 à 14, puis là, il a envoyé ses disciples chercher puis préparer la Pâque, puis il vous montrera une chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Là, ça veut dire que l'agneau était prêt, etc., pour être à le manger. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres, avec lui. C'était l'heure de fêter la fête de la Pâque. La journée de Pâque a commencé, c'était rendu le soir de la nuit avant. Fait qu'il s'est rassemblé avec ses disciples, puis Jésus a dit, au verset 15, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Fait que là, il était la veille, le soir, la veille, il mange la Pâque avec ses disciples. Il est en train, c'est là qu'il a expliqué ce qui se passait à la Pâque, puis on va le voir dans le prochain verset. Puis il était la veille, puis après ça, ça nous dit que là, ils ont chanté des cantiques. Après ça, ça nous dit que là, ils sont partis dans le jardin, puis là, la gang est venue, ils l'ont pris, il a passé la nuit comme capturé par les Romains, amené chez Caïphe, amené chez Hérode, puis tout, puis il a mangé des baffes, puis des coups de poing, puis de se faire frapper de verge, se faire fouetter, se faire jusqu'à temps, toute la nuit, jusqu'au lendemain matin, jusqu'à midi, où ce qui a été crucifié la journée de Pâques, puis que là, il y aurait à 3 heures d'après-midi, il est mort, il a expiré, puis ils ont sorti Jésus parce qu'il était déjà mort, puis l'ont emmené direct dans le sépulcre, puis les autres qui étaient à côté, ils n'étaient pas morts, ils brisaient les jambes des crucifiés pour qu'ils ne pouvaient plus s'appuyer, ils étaient cloués à croix, ils ne pouvaient plus s'appuyer sur leurs jambes pour respirer. Fait que là, en le brisant, les jambes étaient suspendues, puis mourant par suffocation. Il était plus capable de respirer, il était pendu par les jambes, mais cloué sur la croix. Puis là, ça prenait du temps avant de mourir. Puis là, il a testé, ouais, s'il était vraiment mort, ils ont planté une lance dans le corps. Puis là, il a sorti de l'eau puis du sang dans Jésus, il était déjà mort. Mais tout ça pour donner une petite idée du sacrifice, puis de l'eau et du sang sorti de lui, c'est le sang de la nouvelle alliance. Puis c'est un symbole de l'eau, qui est la parole de Dieu, et le sang, qui est le sang qui purifie, puis qui nous accorde tous les avantages que j'ai mentionnés. Mais Jésus, la journée de Pâques, a célébré la Pâque avec ses disciples, Puis dans la même journée, il a dit, je vous laisse célébrer vivement, manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Fait qu'après ça, il a souffert, puis il est décédé. Puis Jésus, pendant qu'il était en train de parler avec ses disciples, il leur a mentionné l'importance de son sang lors de la célébration de la Pâque avec ses disciples. Puis il nous demande d'en prendre de son sang en commémoration de son sang qui était versé. Quand il était avec les disciples, dans Matthieu 26, le verset 26 à 28, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, puis en donna aux disciples. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, puis après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Puis là, il lui a dit de boire de ce vin-là, puis là, il a dit, ça, c'est mon sang. Jésus, lorsqu'il a mangé la Pâque, il a institué une scène qu'on appelle la Sainte Cène, puis il a partagé le pain, d'un pain, il l'a partagé en morceaux, il dit, ça, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Il a donné chacun un morceau de pain, puis il a donné une gorgée de la même coupe de vin, puis buvez-en tous, c'est le sang de la Nouvelle Alliance en mon sang. Voyez-vous? Dans toute cette explication-là, tout ça pour nous amener à prendre conscience que lorsqu'on va faire la Sainte-Sainte tantôt, on va prendre le pain et le vin pour se commémorer tous les avantages qu'on a en Jésus-Christ, c'est à cause qu'il a payé, qu'il a versé son sang, c'est le sang de la Nouvelle Alliance pour chacun de nous. À cause de son sacrifice puis de son sang qui était versé, Jésus était l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés de nommer votre nom. Vous faites partie de ceux que ça lui a coûté son sang. On va prendre de son pain, puis on va dire, ça c'est le corps de Jésus qui est rompu pour moi. J'en ai part à moi aussi. Puis on va prendre de son sang, puis ça c'est son sang qui était versé pour moi. Puis on va en prendre chacun une petite gorgée. Ça va nous rappeler que Jésus, qu'est-ce que ça lui a coûté pour qu'on puisse être sauvé.